Prince de nom. Ça devrait collectivement nous alerter. En plus, moi, je suis un sentimental, je m'attache vite. Catherine Vautrin, j'ai même pas eu le temps de la connaître suffisamment pour l'appeler Katoche. Geneviève Darrieussecq, dont j'ai même pas eu le temps de lire un seul roman. Frédéric Valtoux, dont... C'est qui déjà Frédéric? Bref, tous ces changements incessants. Vous êtes cardiologue, mais mon cœur à moi, vous y avez pensé? Non, bien sûr, vous étiez chez Afflelou en train d'essayer de gratter une quatrième monture gratuite. Et à force de faire diversion avec ses lunettes, on en oublie l'essentiel. Le plan santé mentale, enfin dévoilé hier. Petit bémol, je cite, sans budget associé. C'est un peu comme si je disais, allez, soyons fous, cet été, je me paye un voilier. T'as les thunes? Bah non, je suis pisiche sur Inter. Alors je pose la question, est-ce que par hasard, votre plan, vous comptez le financer en remportant la cagnotte de l'euro million demain? Moi, c'est mon plan. De toute façon, même si vous trouvez le budget, il y a des failles dans ce plan, comme cette proposition d'imposer aux facs de médecine d'instaurer un stage obligatoire en psychiatrie afin, je cite, de susciter davantage de vocations. C'est con. La psychiatrie, on s'y oriente précisément si on n'y a jamais fait de stage. T'imagines, tu passes un mois à Sainte-Anne entre le type qui se tape la tête contre les murs parce qu'il est de gauche et soi-disant on n'a pas respecté son vote aux dernières élections et celui qui se prend pour Dominique Seux.
Je suis un capitaliste. Oui. Je suis un capitaliste.
T'es obligé de contraindre physiquement, sinon il se scarifie avec les pages saumon du Figaro. Au bout de 3 jours, effectivement, ta vocation, elle est trouvée. Chirurgie esthétique, tranquille. Donc bonne chance quand même, Yannick. Au fait, la santé mentale, ça me fait penser. Je sais pas si je vous ai déjà parlé ici de ce livre de Nicolas Demorand. Intérieure nuit.
Et j'ai tout simplement envie de l'offrir à tout le monde.
Oui, bah, l'offre pas. Bah. Vu combien t'en as vendu, de toute façon, t'y échapperas pas, toi, à la taxe Zuckman.
Et merci, Mathieu Noël. Rendez-vous tout à l'heure, 16h, pour Zoom Zoom Zen. France Inter, 8h, 1 minute. Et le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, ce matin, une minute de silence dans tous les établissements scolaires à la mi-journée et la reprise des cours au collège de Nogent, 2 jours après le meurtre de Mélanie, poignardée par un élève de 14 ans, sans regret ni compassion. Nous sommes sur place dans un instant. Une société française d'armement accusée de complicité de crimes de guerre et de génocide. La Ligue des droits de l'homme porte plainte contre Eurolinx, qui exporte des composants vers Israël. Alors que la France assure qu'elle ne livre pas d'armes à Tel Aviv. La une ce matin, c'est aussi le retour de la consigne du verre à grande échelle, expérimentée dans 4 régions. Explication à suivre. Ce sont les syndicats qui semblent abandonner l'idée de revenir sur la retraite à 64 ans. Et puis Brian Wilson, compositeur des Beach Boys, disparu hier à 82 ans, musicien génial. Il n'avait pris que 2 mois de cours de piano. On va l'entendre.
Et bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Le 8h20, le grand entretien.
L'Union européenne est un empire marchand, wokiste, ultra-libéral. Un empire qui manipule et menace des désordres, impose et opprime. C'est avec ces mots que Marine Le Pen, plus virulente que jamais contre l'Union européenne, a accueilli lundi Viktor Orban et Matteo Salvini dans le Loiret. Ses alliés européens venus la soutenir alors que sa candidature pour 2027 est en suspens. Marine Le Pen est notre invitée à 8h20.
Et vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est là-bas que la minute de silence observée à midi dans tous les établissements scolaires de France sera la plus grave. Au collège Françoise Dolto de Nogent, les cours reprennent donc ce matin après 2 jours d'interruption depuis le meurtre de Mélanie. En garde à vue, le collégien de 14 ans a dit qu'il voulait tuer une surveillante, n'importe laquelle, sans exprimer de regret. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Florence.
Vous êtes sur place à Nogent devant le collège où l'on imagine un climat extrêmement lourd ce matin.
Oui, de plus en plus de fleurs ont été accrochées sur la grille de ce collège qui va bientôt s'ouvrir pour accueillir les 300 élèves. Les cours seront aménagés vu le contexte et le deuil ici après la mort de Mélanie. La cellule psychologique reste en place à l'intérieur pour les élèves, les enseignants et les parents qui le souhaitent pour faire part de leur douleur. Le maire de Nogent, Thierry Ponce.
Reprise des cours dans une atmosphère certes très lourde, mais avec... un programme construit qui va être là pour que les enfants puissent échanger et soient vraiment en liberté de parole. Et je crois qu'il faut tout de suite repasser à l'étape d'après, c'est-à-dire pour ceux qui sont là, pour les enfants qui sont choqués, pour les parents qui sont perturbés, qui se demandent et qui se posent plein de questions, et puis le corps enseignant aussi, effectivement, qui est abasourdi.
Le choc continue de résonner, d'autant plus lorsqu'on sait que le suspect, l'adolescent de 14 ans, n'a formulé aucun regret dans toutes les auditions qui ont été menées. Détaché, indifférent, déterminé, lui qui a poignardé la surveillante à plusieurs reprises avec un couteau venu de la cuisine de ses parents ce mardi matin. Le procureur a dessiné un profil glaçant, celui d'un adolescent fasciné par la violence. L'avocat du suspect s'est dissocié de certaines affirmations du procureur sur l'état psychiatrique du suspect jugé normal par le magistrat. Des expertises doivent être menées. Le jeune homme doit être déféré dans la journée alors que la première sonnerie doit retentir ici dans cet établissement. Les premiers élèves sont en train d'arriver.
William Delesseux à Nogent en Haute-Marne avec Benjamin Thuot. La famille de Mélanie appelle à une marche blanche demain à 18h au départ du collège. L'an dernier, près de 10 400 agressions au couteau ont été recensées, soit une moyenne de 28 par jour. Policiers et magistrats ont depuis longtemps repéré la banalisation des armes blanches et leur utilisation par les plus jeunes, avec un enchaînement de drames ces derniers mois, comme à Marseille, Laurent Grollet, où un ado de 15 ans a été tué au mois de mars par un jeune du même âge dans le quartier nord de la Calade.
Oui, et ce meurtre, Kaina s'en souvient très bien.
C'est devant ma maison. Là, vous voyez, c'est vraiment un choc et pour moi et pour mes enfants. Ils ont tout vu, en fait. Les pompiers et le petit par terre.
Alors, bien sûr, cette maman respectera une minute de silence pour la surveillante de nos gens et elle en appelle aussi à la responsabilité des parents.
Moi, je fouille leur cartable le matin et soir avant de partir et en rentrant à la maison.
À quelques centaines de mètres de là, le collège Arthur Rimbaud était scolarisé la victime. C'est la sortie de midi. Et Ryan, 15 ans, confirme.
C'est un collège dans les quartiers nord en plus. Ça veut dire qu'on est habitué à avoir des couteaux, des armes, la drogue.
Des couteaux sortis souvent pour un rien.
Tout dépend de pourquoi il a planté.
Toi, tu peux comprendre qu'à un moment, on se serve d'un couteau.
J'ai pas dit ça. Mais si tu en as un sur toi et sur un coup des nerfs, il y a un coup qui peut partir.
Une surveillante écoute ses collégiens attristés par leur détachement face à ce drame.
Pour eux, c'est banal. Ben, vous voyez bien leur réaction. Ils disent pas que c'est super grave, or que c'est super grave.
Elle aussi fouille les sacs à l'entrée du collège.
Même si on fouille les sacs, ça peut être sur eux, de partout quoi, on est à l'abri de rien.
Mais désormais, elle le fera la peur au ventre.
Moi, en tant que surveillante, j'ai super peur.
Reportage Laurent Grollet, ici Provence. C'est dans ce contexte qu'un plan santé mentale vient d'être annoncé. Le ministre était sur notre antenne tout à l'heure. Parmi ses objectifs, former les infirmières scolaires et deux adultes référents dans chaque collège pour repérer les troubles psychiques et faciliter les consultations sans rendez-vous dans les centres médico-psychologiques. Les syndicats de psychiatres hospitaliers dénoncent des mesurettes.
Il est 8h07 à Gaza, Florence. La fondation humanitaire soutenue par les États-Unis et Israël elle dit avoir été attaquée par le Hamas.
Elle annonce qu'au moins 5 de ses employés palestiniens ont été tués dans l'attaque d'un bus hier soir au terme d'une nouvelle journée sanglante où l'armée israélienne est accusée d'avoir encore tiré sur des Gazaouis qui attendaient l'aide de cette même fondation. La défense civile de Gaza annonce un bilan de 31 morts. La France fournit-elle des armes à Israël? Absolument pas, dit le gouvernement, depuis que les dockers de Marseille ont bloqué une cargaison de composants militaires de la société Eurolinks à destination du port de Haïfa la semaine dernière. On apprend ce matin de nos confrères de France Info et du Monde que la Ligue des Droits de l'Homme porte plainte contre cette entreprise française d'armement, Gaëlle Joly, pour complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.
La plainte dénonce le rôle essentiel de la société française Eurolinks qui fournit à une société israélienne très proche de son armée des pièces détachées pour relier entre elles des balles d'armes automatiques. Pour Emmanuel Daoud, l'un des avocats de la LDH qui a déposé la plainte, ces armes ont servi au massacre de la population gazaoui.
Elles sont utilisées contre toute la population gazaoui parce que l'armée israélienne, mais elle est triviale, elle tire dans le tas. On ne fait pas de différence entre les enfants, les femmes, les vieillards. Ça a été documenté depuis novembre 2023, lorsque l'on sait que des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et peut-être crimes de génocide sont commis au quotidien. Et on ne doit pas participer ni de près ni de loin à leur commission.
Interpellé hier lors des questions au gouvernement, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a fermement démenti.
Il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation qui nuit à l'intérêt général et à l'intérêt du pays.
L'entourage du ministre assure que ces pièces détachées ont l'obligation juridique d'être renvoyées en France une fois assemblées en Israël et précise que la vente de matériel de guerre de la France ne dépasse pas 0,2% par an à Israël.
Gaëlle Joly, quand l'Iran se fait menaçant en pleine négociation sur le nucléaire avec les États-Unis. Nouvelle réunion en fin de semaine. Téhéran avertit que les bases militaires américaines seront des cibles en cas de conflit. Du coup, Donald Trump annonce le déplacement d'une partie du personnel américain au Moyen-Orient et se dit moins confiant de parvenir à un accord. Enfin, au Canada, les feux de forêt se rapprochent de Vancouver. 3,5 millions d'hectares sont déjà partis en fumée ces dernières semaines. C'est plus que la superficie de la Belgique.
Et à l'heure du laitier, on parle maintenant maintenant du retour de la consigne du verre.
Un système dominant jusque dans les années 60. On rapportait ces bouteilles au magasin en échange de quelques centimes versés à l'achat. Elles étaient ensuite lavées et réutilisées. C'est ce circuit vertueux pour l'environnement qui est relancé à partir d'aujourd'hui dans 4 régions par l'éco-organisme Citeo. Pendant 1 an et demi, 55 millions de contenants en verre seront mis dans les rayons des supermarchés des Hauts-de-France, de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire. Expérimentation à grande échelle. Rémi Brancato, les produits en question seront facilement identifiables.
L'étiquette violette et orangée sera d'abord collée sur des bouteilles de jus, de soupe dans les rayons de vos supermarchés. Avec ce message, rapportez-moi pour réemploi, il vous en coûtera 20 centimes, rendu au retour du contenant dans des bornes automatiques. Pas besoin de ramener la bouteille là où vous l'avez achetée, c'est la grande nouveauté, mais dans l'un des 350 magasins participants d'ici l'été. 750 à l'automne, la bouteille est standardisée, les bocaux attendus début 2026 aussi. Une fois nettoyée, la bière peut remplacer la soupe et vice-versa. Pour l'instant, 8 enseignes participent, Carrefour, Auchan, Intermarché notamment. Objectif, 55 millions d'emballages sur le marché dans ces 4 régions. L'éco-organisme Citeo espère en faire circuler 2 milliards à terme partout en France. Mais il faudra habituer les consommateurs. Dans le groupe U qui participe, quand on teste la consigne dans quelques magasins, moins de 4 emballages sur 10 sont rapportés. Citeo espère 50% de retour pour ce premier test à grande échelle.
Alors la liste des magasins et des lieux où on peut rapporter ces contenants est visible sur le site suivant reflex-gagnant-reemploi.fr. Un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, la taxe Zucman, du nom de l'économiste qui l'a théorisée, arrive au Sénat après avoir été votée par l'Assemblée. Elle pourrait rapporter 15 à 25 milliards d'euros à l'État, mais elle a très peu de chances de passer auprès des sénateurs. Voilà qui nous amène à la retraite et au financement du système. Argument pour repousser l'âge de départ à 64 ans. Syndicats et patronats vont de nouveau se retrouver pour en parler aujourd'hui, dans la dernière ligne droite du conclave, en sachant que le MEDEF ne veut pas de retour en arrière sur l'âge, qu'il sera conforté aujourd'hui par le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, et que les syndicats n'en font plus une ligne rouge. Maxime Debs, les 64 ans ne vont sans doute pas bouger.
Il y a bien eu l'idée ces derniers jours de couper la poire en deux, un âge de départ ramené à 63 ans, mais avec allongement de cotisation proposé par la CPME et son négociateur Éric Chevet.
Nous avons fait la proposition, on a eu une fin de nous recevoir très bien.
Là-dessus, et le COR, le Conseil d'orientation des retraites et le MEDEF en début de semaine ont fermé la porte. Revenir sur les 64 ans, c'est non. Alors hier soir, Christelle Thieffine à la CFE-CGC l'a concédé.
Nous, on aura un texte qu'on pourra signer s'il n'y a pas la question de l'âge. Mais ça veut dire que sur les autres thèmes, il faut qu'on puisse avancer et trouver des vraies améliorations pour les salariés et pour les retraités.
Alors, d'amélioration à défaut du reste, le MEDEF veut bien en discuter. Pénibilité, impact de la réforme sur les femmes. La CFDT y voit un point positif, mais il en faudra bien plus pour son négociateur, Yvan Ricordo.
Il nous faut des signes tangibles de bouger sur les âges de départ à la retraite.
Les âges et non plus l'âge à part entière, car si le scalp des 64 ans ne peut s'obtenir, alors il faudra bien trouver une solution. La CFDT suggère par exemple un système de retraite à la carte.
Qu'à l'avenir, il y a une liberté de choix des salariés pour partir à des âges différents. Et sur ce point-là, le patronat a l'air plus ouvert.
Syndicat comme patronat qui cherche plus que jamais la sortie, à voir s'ils s'en approcheront cet après-midi.
Maxime Debs, quand on parle retraite, il est affaire de pyramide des âges, donc de démographie. Or, on fait moins d'enfants en France depuis une dizaine d'années. Ce sera le thème du 13-14 de Jérôme Cadet en direct de la maternité de Saint-Omer tout à l'heure. Dans ce département du Pas-de-Calais, où les naissances ont baissé de 26% en 10 ans. Alors pourquoi ? Sarah Mansoura est allée poser la question à de jeunes parents dans les villes d'Eperlec et de Hull.
Ameline passe en coup de vent sur ce petit parking jouxtant la crèche. Elle vient déposer son fils Hans, à peine 1 an, et Hans n'aura pas de frère et sœur.
Ah ouais, non. Hein, c'est très bien. Bah, la crèche, par exemple, c'est à peu près 200 euros le mois. Après, bah, y a les couches, il y a les petits pots, les parapharmacies, les crèmes, tout ça se chiffre au moins 500 euros le mois. Et j'ai attendu 30 ans pour pouvoir faire un enfant.
L'âge moyen du premier accouchement dépasse aujourd'hui les 31 ans, contre 29 ans et demi en 2015. Et qui dit grossesse plus tardive dit aussi parfois plus de difficultés à concevoir. Vianney, 40 ans, porte sa petite Isaé au bras et Zachary dans son couffin. Lui et sa compagne ont mis du temps à les avoir. Trop tard, dit Vianney, pour un troisième.
On a pris beaucoup de galons au niveau travail aussi, donc forcément, si on avait eu la première à 30, 32, oui, pourquoi pas. Et la carrière est passée du coup en priorité au départ, et puis donc là, je m'arrête à deux.
Autre question, le mode de garde. À la tête de trois micro-crèches privées, Raphaël Lavoine dit sentir cette baisse de natalité.
On est encore sur quelque chose de positif, où on a un peu plus de demandes que de places. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Avant, on avait une place pour une dizaine de demandes. Maintenant, on est plutôt sur une place pour deux demandes.
Et c'est aussi parce que ces dernières années, le nombre de places a augmenté. Aujourd'hui, le département refuse les nouvelles ouvertures.
Reportage Sarah Mansoura et rendez-vous avec Jérôme Cadet à 13h dans la maternité de Saint-Omer. Quand ChatGPT, aucun rapport, répond à toutes vos demandes, encore que c'est le principe de cette intelligence artificielle générative dont les jeunes se sont emparés, plus nombreux chaque année. 80% des 18-25 ans l'utilisent une fois par semaine. Chiffre d'une étude de l'agence Even que vous nous révélez en avant-première. Stéphane Jourdain, certains ne peuvent littéralement plus s'en passer.
Goji, Segui et Havana sont en dernière année de BTS et elles ne s'en cachent pas. Elles sont accros à ChatGPT.
Ouais, j'ai utilisé hier, moi, pour faire refonctionner un jeu dans ma Nintendo Switch. Non, moi, c'était pour trouver un nouveau travail pour ma mère.
C'est un peu gênant, mais des fois, je lui demande de me réconforter sentimentalement. Genre, ouais, complimente-moi, fais ci, fais ça.
Moi, je pourrais pas faire sans, parce que maintenant, je l'utilise tout le temps, en fait. Donc, c'est mort.
Comme ces trois étudiantes, les jeunes sont de plus en plus dépendants aux IA génératives. 42% les utilisent tous les jours, c'est deux fois plus qu'il y a un an. Et 1 sur 5 échangent régulièrement par la voix avec une IA. Ces jeunes s'en servent principalement pour rédiger des textes, chercher des infos ou même résoudre un problème. Ce qui doit nous alerter, selon Yann Lequin, l'un des pères de l'IA moderne, croisé à Vivatech.
Il faut quand même se méfier, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à un humain, on parle à une machine qui est une espèce de collection statistique un peu de tout ce que les humains répondraient dans ce genre de situation, et ce n'est pas toujours complètement approprié. Mais ce qu'on constate avec toutes les nouvelles technologies, c'est que les jeunes apprennent beaucoup plus vite que leurs aînés à utiliser une technologie à bon escient et à connaître ses limitations.
Des jeunes qui se sentent acculés, la moitié d'entre eux estiment qu'il faut utiliser l'IA au risque d'être désavantagé par rapport aux autres.
Stéphane Jourdain, enfin, une oreille absolue et l'autre qui n'entend pas, signe distinctif d'un maître de la pop californienne et mondiale. Brian Wilson est né des Beach Boys et de leur Good Vibration. C'était lui qui composait les chansons et rivalisait d'inventivité sonore avec les Beatles. On a donc appris sa mort à l'âge de 82 ans hier. J'ai pensé à toutes les années où je l'ai écouté, où j'ai admiré son génie, réagit Bob Dylan. Brian Wilson était pourtant autodidacte, écoutez-le, dans une interview auprès d'un journaliste américain, c'était en 1998.
J'ai juste pris des cours de piano 2 mois et quelques leçons de chorale, je suis autodidacte. Tout ça alors que je suis sourd de l'oreille droite. La chanson dont je suis le plus fier, God Only Knows. Love you, as long as there are stars above you. Il y a des accords très beaux et une mélodie très belle. Je l'aime, c'est mon titre préféré. Ça et l'intro de California Girls. Le son est super. Ça commence et boum.
Je propose qu'on écoute les Beach Boys en boucle toute la journée.
Ouais, et même jusqu'à la fin de la semaine, minimum. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et c'est une ambiance matinale encore orageuse, Marie-Pierre, sur le Nord-Ouest.
Oui, Nicolas, même si la vigilance orange est levée, la situation reste encore chaotique, on va dire même jaune bien foncé, car la goutte froide qui est remontée sur l'Atlantique vers les îles britanniques provoque encore des orages bien costauds, accompagnés de vents jusqu'à 90 km par heure du Poitou-Charentes à la Bretagne et à la Normandie. Sur le reste du pays, c'est plus calme, avec quelques grisailles qui traînent sur l'Aquitaine et le pourtour du Golfe du Lion. Ailleurs, c'est ensoleillé, malgré quelques passages nuageux. sous des valeurs qui restent inégales malgré une hausse générale, pas plus de 6 dans les Ardennes en Moselle, alors qu'il fait 22 dans l'Aude et vous avez 17 dans la capitale.
Et un temps plus calme sur le nord-ouest cet après-midi.
Oui, sur les départements côtiers de la Manche et de la Bretagne, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages, porteurs de rares ondées sur le reste du pays, excepté quelques grisailles tenaces en Roussillon. Ce sera estival, mais en fin de journée, on attend des orages sur le Massif central et les Alpes, des ondées possibles du centre à l'Île-de-France à la Belgique. Ces ondées pourraient évoluer aussi jusqu'à l'orage, dans une ambiance très contrastée. Après les 38 hier relevés à Nîmes, du jamais vu aussitôt dans la saison, il fera encore 31 dans les Arènes, 30 à Lille, 32 à Marmande, comme à Paris ou Bonifacio, comptez 34 à Sézanne dans la Marne. Contraste avec les 21 à Quimper et 25 à Honfleur. En se rappelant Nicolas Yvan Audouard, en Provence, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste.
Très beau proverbe. C'est pas un proverbe de matinalier, ça, hein, Marie-Pierre. Il est 8h20.
Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Duba.
Souria. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Nicolas.
Pierre, vous revenez sur les événements de Californie.
Il y a les événements de Californie et il y a la représentation des événements de Californie. Ça n'est pas exactement la même chose. Le déploiement de la garde nationale et des Marines à Los Angeles, décidé par Donald Trump, donne lieu à une confrontation politique exacerbée par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. C'est inévitable aujourd'hui car l'enjeu, c'est le cerveau de millions de citoyens spectateurs, plus que la maîtrise du territoire. Dès le moment où Trump a décidé de passer à l'acte, lorsque les commandos de l'ICE, la police anti-immigration, ont été confrontés à des manifestations hostiles lors de leur raid contre les migrants illégaux, la bataille est devenue celle des images, des symboles. C'est l'une des expressions de la guerre culturelle en cours aux États-Unis. Cette bataille s'est vite personnalisée. D'un côté, Donald Trump qui se donne des allures de dur, sauveur de l'Amérique profonde. De l'autre, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, dans le rôle du défenseur de la démocratie en danger, comme il l'a dit mardi. Et pourquoi pas, sauveur du Parti démocrate en déroute, en quête d'un héros pour 2028.
C'est vraiment ça, Pierre, qui se joue dans cette affaire ?
Alors, au risque d'être jugé cynique, Nicolas, c'est la vraie bataille derrière les discours sécuritaires et anti-immigration. Donald Trump s'est précipité sur les violences de Los Angeles, car il y voit un moyen de détourner l'attention de ses échecs, de surfer sur un des rares sujets sur lesquels il conserve un soutien majoritaire chez les Américains. Il fait d'une pierre deux coups, il se montre intraitable vis-à-vis de ses migrants illégaux qu'il a diabolisé tout au long de sa campagne. Souvenez-vous des Haïtiens qui mangeaient les chiens et les chats. Et il montre du doigt ces laxistes de démocrates qui ne sont pas de vrais patriotes américains. Le terrain est idéal pour lui, même si les migrants visés par l'ICE ne sont pas seulement les membres tatoués de gangs violents, mais des travailleurs présents parfois depuis des décennies, dont les enfants sont américains. C'est là que la désinformation entre en jeu pour appuyer un narratif résolument favorable à Donald Trump.
Et ça prend quelle forme ?
Les réseaux sociaux américains ont été inondés ces derniers jours d'images plus dramatiques les unes que les autres, qui se révèlent bien souvent fausses, comme ces piles de briques censées prouver la préméditation des émeutes, mais dont la photo a été prise ailleurs, ou des scènes de violence carrément tirées de films d'Hollywood. La désinformation a été aidée par l'irruption de l'intelligence artificielle et de ses erreurs, également appelées hallucinations. David Colomb, auteur d'un livre sur la guerre de l'information, les a relevés et fait observer que les LLM, ces outils d'intelligence artificielle, ne devraient jamais être employés pour vérifier les informations. Ce sont des perroquets stochastiques, c'est-à-dire qui relèvent du hasard, écrit-il. Mais l'information et la désinformation passent par là en 2025, surtout lorsque les enjeux politiques sont aussi importants. Difficile à contrer, impossible d'y échapper. Le laboratoire américain préfigure les batailles informationnelles de demain dans le monde entier, dans lesquelles la technologie brouille la frontière entre le vrai et le faux. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez une image de Californie.
Pierre Aski, merci. Les invités du 7-10 ce matin, qui est à votre micro dans une heure, Léa ?
Écoutez, après une année 2024 stratosphérique avec une victoire de la musique et un clip qui a fait près de 20 milliards de vues dans le monde, il sort demain un nouvel album, Yamé, est notre invité à 9h20.
Et dans un instant, le grand entretien avec Marine Le Pen.
Les Français font de moins en moins d'enfants. Le nombre de naissances a diminué de 21% depuis 15 ans. Pour quelles raisons ? Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce jeudi, le 13-14 s'installe dans la maternité de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À l'écoute des soignants et des parents, pourquoi le désir d'enfant s'efface-t-il ? Comment relancer la natalité ? Quelles conséquences pour les écoles, les associations, les entreprises ? Nous ouvrons le débat avec nos invités et nos reportages.
Le 13-14 de France Inter.
En direct de la maternité de Saint-Omer, c'est tout à l'heure.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie ? Un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer.
Il est 8h25.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la députée du Pas-de-Calais et présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Marine Le Pen, bonjour.
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 Et bienvenue sur Inter. Beaucoup de questions à aborder avec vous ce matin. Ce discours très virulent contre l'Union européenne que vous avez prononcé lundi dans le Loiret en présence de Viktor Orban et de Matteo Salvini notamment. On parlera de la situation budgétaire de la France, de votre candidature en suspens à la présidentielle. Mais on commence avec les conséquences du drame de Nogent, l'agression mortelle d'une assistante d'éducation tuée à coups de couteau par un élève de 14 ans lors d'un contrôle inopiné des sacs menés par les gendarmes à l'entrée du collège. Emmanuel Macron, François Bayrou ont tout de suite annoncé des mesures pour lutter contre ce fléau des armes blanches chez les jeunes. Quelles sont vos propositions à vous pour l'endiguer, ce fléau ?
Alors, d'abord, permettez-moi de pointer du doigt tout de même la contradiction qui existe dans ce gouvernement, parce que, en quelques mots, aujourd'hui, j'entends le Premier ministre, le Président de la République, vouloir interdire l'achat de couteaux
sur Internet.
Il y a quelques semaines, ils annonçaient une expérimentation pour condamner les porteurs d'armes blanches, ce qui est interdit, sans raison valable, dans l'espace public, à une amende forfaitaire. Donc il y a un moment, vous voyez, il y a une contradiction totale. Est-ce que on considère, comme moi, que le port d'armes blanches est un fait de société qui doit être évidemment combattu avec un très grand sérieux, ou est-ce qu'on considère que c'est anodin et qu'une simple amende forfaitaire suffit en réalité quand vous êtes face à des gens qui sont porteurs de cela ? Donc la première des choses, c'est d'appliquer la législation sur le port d'armes illégal, parce que c'est devenu commun. Et d'ailleurs, quand vous interviewez des jeunes, ils disent, mais tout le monde, en fait, a une arme blanche dans la poche, dans le cas de... c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal. Donc, non, c'est interdit, c'est terriblement dangereux, et c'est évidemment
d'accord,
absolument
mais
interdit.
Mais comment vous faites, objectivement ? Après, il n'y a pas de solution miracle, parce qu'effectivement, des couteaux, il y en a dans la cuisine, donc comment on fait ?
Non, mais ça, c'est au gouvernement qu'il faut dire ça. C'est eux qui veulent interdire la vente d'armes blanches, alors que effectivement c'était un couteau de cuisine d'ailleurs en l'occurrence. Ça veut dire que on ne peut pas considérer comme anodin le fait de porter une arme blanche dans l'espace public. Ça veut dire que il faut donner des consignes au procureur, à la police et au procureur, pour qu'à chaque fois que quelqu'un est pris avec une arme blanche, eh bien il aille devant le tribunal correctionnel, parce que encore une fois, ce sont des choses qui sont graves et qui n'existaient pas avant. Deuxièmement, je pense qu'il y a un problème fondamental de vouloir à tout prix, et ça a été une philosophie depuis de nombreuses années, maintenir les élèves violents et gravement perturbateurs dans l'enseignement classique. C'est-à-dire que quand des élèves sont violents ou gravement perturbateurs, eh bien, il faut qu'ils puissent être dirigés vers des établissements qui sont adaptés aux problèmes de discipline qui sont les leurs. Troisièmement, je pense que c'est une situation globale. Comme je l'ai fait lors de la dernière présidentielle. Je suis très attachée à ce qu'il y ait un grand processus de resacralisation de l'intégrité physique. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est venu confirmer en réalité ce sentiment, la déclaration du procureur. Aujourd'hui, la vie n'est plus sacrée. L'intégrité physique de l'autre n'est plus sacrée. Et donc, il faut resacraliser ça par un durcissement non pas des peines d'ailleurs, mais en réalité de l'aménagement des peines en cas d'atteinte d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une peine égale ou supérieure.
Marine Le Pen, pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, vous estimez que si un couteau est retrouvé sur un élève, ça ne doit pas être le conseil de discipline, ça doit être le tribunal. C'est ce que vous avez déclaré hier.
Non, mais donc que Madame Borne, considère que le fait d'avoir une arme blanche sur soi à l'école, qui est, je le rappelle, une infraction qui est condamnée jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison, eh bien, ne doivent entraîner qu'un passage devant le conseil de discipline, oui, ça pose un problème, en effet. Oui.
Donc vous, c'est au tribunal. Donc, pour être très clair, un môme de 12, 13, 14 ans, on le voit avec un couteau, il va directement au tribunal. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, vous connaissez la situation de la justice, vous savez que la justice, ils sont débordés, ils croulent sous les dossiers. On va envoyer un gamin de 13, 14 ans, quand on trouve un Opinel dans son sac, devant les tribunaux. Est-ce que c'est réaliste?
Oui, parce que je vais vous dire, je plaide là encore, et je vois que j'ai réussi à convaincre certains dans la classe politique, pour le système néerlandais, c'est-à-dire la mise en œuvre de peines courtes, mais ferme dès le premier délit grave pour les mineurs. Parce que la réalité, c'est que le parcours de délinquance est un parcours d'impunité, qui fait qu'arriver à la majorité, eh bien, ça leur tombe dessus avec des peines de prison fermes, avec des faits qui sont extrêmement graves et qui auraient pu être évités.
Donc, un gamin de 13 ans, mais vraiment, parce qu'on entend ce que vous dites, mais un gamin de 14 ans qu'on trouve avec un couteau dans son sac, il va en prison.
Vous êtes en train de me... Mais non.
Mais des peines courtes.
Mais non, un gamin de 13 ans, jusqu'à 13 ans, il ne va pas en prison, parce que je n'ai pas évoqué devant vous la modification du droit pénal dans le domaine de la minorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse qui soit extrêmement ferme et extrêmement rapide. Or, ça n'est pas le cas. Il n'y a même pas de réponse, et même pas qu'elle n'est pas ferme ou pas rapide, elle n'existe pas en fait. Il y a zéro réponse. Et Madame Borne, elle nous dit, il faut un conseil de discipline. Et Madame Pécresse, qui en rajoute dans l'absurdité, dire il faut que le conseil de discipline soit dirigé par le maire de la ville. C'est-à-dire, Louis Alliot, il va être content, vous voyez, il a 100 000 habitants, s'il passe sa vie à faire des conseils de discipline, il n'est pas sorti, et je pense que les habitants ne vont pas être très contents. Non mais, il faut arrêter avec le concours Lépine des propositions les plus stupides qui soient. Et puis, il y a évidemment le sujet de la responsabilisation des parents. Voilà. Ça, c'est un sujet majeur, parce que quoi qu'on en dise, quand on est parent, eh bien, on a une obligation de surveillance. Et il y a un article dans le code pénal, l'article 227-17, qui dit que s'il y a un défaut de surveillance qui compromet la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, eh bien les parents sont responsables. Cet article-là n'est quasiment jamais utilisé. Donc on a un arsenal juridique, utilisons-le et arrêtons de vouloir inventer des nouvelles choses qui sont de surcroît inefficaces.
Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il voulait aller vite et interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Êtes-vous là d'accord avec lui ?
Moi, c'est la fiabilité, si vous voulez. On est en train de travailler sur ce sujet, parce que la réalité, c'est que ça n'est qu'à l'achat, en passant un accord avec les différentes plateformes, que l'on pourrait limiter en réalité l'accès des mineurs. Encore faut-il que les parents jouent le jeu, parce que si les parents achètent le portable à leur nom et le donnent à leur enfant, eh ben, en réalité, on ne pourra rien faire. Voilà, c'est ça. Donc, les parents ont un rôle absolument essentiel. Et peut-être c'est bon de le redire, d'ailleurs, parce que pendant des années, on a, en quelque sorte, écarté les parents de l'éducation de leurs enfants, et je pense qu'il est vraiment temps de les responsabiliser à nouveau en disant qu'ils sont responsables. C'est pas seulement une responsabilité virtuelle, ils ont une vraie responsabilité.
Mais ça veut dire aux parents ou interdire aux parents les portables, d'acheter des portables.
Non, mais avant, il faut arrêter qu'interdire tout.
Non, parce que vous dites qu'il faut responsabiliser. Non, mais parce que c'est un vrai fléau, vous le savez que c'est un vrai fléau. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes de 13-14 ans qui passent 2 heures sur TikTok par jour.
On fait comment ? C'est un fléau parce que ça a une influence sur la manière dont le cerveau de nos enfants se construit. Bon, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes parents, je vous le dis, qui ont pris conscience de cela et qui interdisent les écrans à leurs enfants. Voilà. Donc c'est cela en fait. On ne pourra pas faire une société où, en réalité, c'est par l'interdiction, la contrainte et sans les parents qu'on arrivera à obtenir des résultats. Donc c'est cela, à mon avis, la chose à faire. Et c'est, le couteau n'est pas responsable en lui-même, vous voyez ce que je veux dire ? C'est celui qui le porte qui est responsable. De la même manière que quand des gens avec une voiture foncent dans une foule, c'est pas la voiture qui est responsable, c'est le conducteur de la voiture. Mmh.
Venons-en à votre actualité, Marine Le Pen. Lundi, vous rassembliez dans le Loiret, un an après les européennes. Vos alliés européens étaient notamment présents, le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini. Orban a prononcé un discours particulièrement virulent. Parlant des migrants, il a déclaré, je le cite, « Nous ne les laisserons pas détruire nos villes, violer nos filles et nos femmes, tuer des citoyens pacifiques. » Il a comparé la politique migratoire européenne à, je cite, « un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe. » En clair, c'est la thèse du grand remplacement qu'il défendait chez vous, devant vos troupes, dans le Loiret. Vous pensez désormais, Marine Le Pen, qu'il y a un grand remplacement à l'œuvre en Europe? Vous êtes d'accord avec Viktor Orban quand il dit ça, chez vous, devant vous?
Non mais que M. Orban soit tout à fait opposé à l'immigration, c'est un fait. Il a raison, et d'ailleurs il n'y a pas d'immigration en Hongrie. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il paye des sommes absolument considérables de sanctions, puisque vous le savez, avec le pacte migratoire, l'Union européenne maintenant, en réalité, condamne les États qui refusent de prendre les migrants à 20 000 euros par migrant. Ce que je considère comme étant une démarche autoritaire de la part de l'Union européenne et profondément antidémocratique, parce que chaque peuple a le droit de décider qui vient chez lui et qui s'y maintient, et ça n'est pas à l'Union européenne d'imposer.
Mais vous pensez qu'il y a un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe, comme lui ou pas ?
Moi, je vous ai toujours dit que je ne pense pas qu'il y ait un complot. Je pense qu'il y a une politique d'immigration qui est idéologique, qui est irresponsable de la part de nos dirigeants, qui est la conséquence de leur aveuglement, qui est la conséquence de leur laxisme, de leur manque total de courage, parce qu'il faut, pour s'attaquer au problème migratoire et ne pas laisser les choses se dérouler comme elles se déroulent, il faut du courage. Voilà.
Et qui risque de mener à un grand emplacement culturel.
Chacun pense ce qu'il veut, si vous voulez, nous sommes des souverainistes. La souveraineté, en fait, c'est être d'accord sur le fait qu'on a le droit de pas être d'accord entre soi. Vous voyez, c'est ça en fait le principe.
Donc
du
vous n'êtes pas totalement d'accord sur la ligne de Viktor Orban.
Non, mais moi je suis d'accord sur le refus de Viktor Orban de laisser entrer dans son pays une immigration dérégulée, une immigration massive, parce que je vois très bien ce que cette immigration dérégulée et massive a fait à notre pays. Voilà, sur nos comptes sociaux, sur la sécurité.
Ça, on entend. Mais vous marquez une différence.
Les problèmes sur les problèmes culturels qui peuvent être le fait de cette immigration massive. Donc, alors que d'autres pays regardent la France et se disent « j'ai pas envie d'être la France », je peux comprendre, ouais.
Pourquoi ?
Parce que je vous dis que la France est un des pays qui a subi une immigration absolument massive et qu'il y a des tas de pays en Europe qui, regardant la France, se disent « je n'ai pas envie que mon pays subisse ce que subit la France aujourd'hui ».
Vous avez, dans votre discours, pour le coup, vous aussi, été assez virulente, très virulente même, contre l'Union européenne. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu aussi déchaîner contre l'Union européenne. L'Union européenne coche toutes les cases. C'est un empire marchand, wokiste, ultralibéral, et parce que c'est sa nature, sa volonté, c'est un empire contre nos nations, c'est un empire qui manipule, menace des désordres, impose et opprime. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu dire ce point.
À peu près. J'ai dû dire ça aux élections européennes, en fait.
Entend de telles phrases, on se dit que vous avez renié avec vos premières amours de 2017, c'est-à-dire le Frexit.
Mais pourquoi ?
Mais parce que !
Mais enfin, c'est quand même étonnant. Il y a quand même une démarche étonnante de la part de la classe politique et journalistique qui consiste à considérer que l'alternance ne peut pas exister. C'est intégré dans vos cerveaux qu'il n'y a pas d'alternance. There is no alternative, hein, comme disaient les Britanniques. Eh bien, il y a une alternance possible. Il y a une alternative possible. Et elle peut intervenir par l'intermédiaire de la démocratie. Et d'ailleurs, c'est sain, parce que précisément, c'est ça la démocratie. C'est la possibilité qu'il existe une politique alternative. Or, nous nous battons au Parlement européen avec un certain nombre de succès contre toutes ces politiques que nous considérons comme toxiques. Là, on a vu le Parlement européen caler à plusieurs reprises la directive Omnibus qui revient sur un certain nombre de normes imposées aux industries qui ont failli tuer nos industries. Les sanctions contre nos constructeurs automobiles qui ont été abandonnés, c'est 450 millions que n'auront pas à payer nos constructeurs automobiles.
Mais c'est la question...
Là, aujourd'hui, on a réussi à créer un doute au Parlement européen voitures thermiques. On avance.
Marine Le Pen, la question, c'est une question de ligne. Quand vous dites que c'est une machine bureaucratique froide, impersonnelle, autoritaire dans l'âme, qui est profondément wokiste et ultra-libérale, la cohérence voudrait dire que, et vous l'aviez dit dans le passé, sort.
Non mais pardon, mais je suis extrêmement sévère avec Emmanuel Macron. J'entends pas sortir de la France, vous voyez. Je compte pas partir, je compte rester. Je compte faire ce qu'on fait dans une démocratie, c'est-à-dire lutter, combattre avec des idées pour permettre à une majorité de Français de choisir une politique alternative. Nous faisons la même chose en Europe. Et nous avons enregistré, parce que nos idées avancent, parce qu'avec l'ensemble de nos alliés qui représentent des millions d'Européens, eh bien, nous faisons avancer nos idées. En France, nous les faisons avancer. Nous avons sauvé la loi Duplomb, qui allégeait les contraintes sur les agriculteurs. Nous avons supprimé les zones à faible émission qui interdisaient un certain nombre de Français de pouvoir se rendre dans les centres-villes des grandes villes. Nous avons limité la loi ZAN qui interdisait la construction, et notamment là en ce qui concerne la limitation, les interdictions de construction d'entreprises. Donc nos idées avancent, nous nous battons pour elles avec
sur
un
la
très
ligne,
grand succès et on va continuer à le faire jusqu'à la victoire.
Sur la ligne politique, là aussi, non mais c'est vrai, on essaye de comprendre où vous vous situez. François Bayrou veut trouver 40 milliards d'économies face à un déficit public de près de 6%. Déclaration étonnante du député RN Jean-Philippe Tanguy, qui louait mardi la règle d'or des 3% de déficit, outil particulièrement efficace. 3% de déficit, c'est la limite fixée par l'Union européenne. Vous vous convertissez à l'orthodoxie budgétaire ?
Non.
À la rigueur ?
Non, mais vous savez, moi j'ai toujours considéré que tout ce qui était une limitation au droit des parlements devait être regardé avec beaucoup de précautions. Donc 3%, ça a été décidé sur un coin de table, hein, ça peut être 4%. Le sujet n'est pas vraiment là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 3300 milliards d'euros de dette, 1000 milliards d'euros qui ont été créés par Emmanuel Macron en l'espace de 8 ans. On voit bien qu'il faut... On est parti dans le grand n'importe quoi. Voilà. Et le grand n'importe quoi, ça a des conséquences sur la vie quotidienne des Français. Donc, ce que nous disons, c'est que nous devons réfléchir peut-être à une règle d'or qui permettrait d'équilibrer les dépenses de fonctionnement pour préserver les dépenses d'investissement. C'est-à-dire préserver ce qui prépare l'avenir et essayer de résoudre ce qui obère l'avenir. Voilà ce que nous disons. Hors du gras, il y en a. Évidemment, il y a des économies à faire et elles sont nombreuses, et sans passer par une augmentation des impôts, car nous le refusons, mais par une baisse des mauvaises dépenses.
Marine Le Pen, question sur la ligne du Rassemblement National. Deux stratégies différentes au sein de votre parti, l'une que vous incarnez dans le Loiret avec Viktor Orban et Matteo Salvini, et l'autre incarnée par Jordan Bardella, qui s'affiche avec des chefs d'entreprise, défend une ligne économique de plus en plus libérale, il prend pour modèle Giorgia Meloni, il prône de plus en plus l'union des droites. Dites-nous, éclairez-nous, est-ce qu'il y a deux lignes au RN maintenant ?
C'est marrant parce qu'il me semble que Jordan Bardella était là dans le Loiret aussi.
Ça n'empêche pas.
Ça n'empêche pas d'avoir deux lignes. Il peut être là et penser différent.
Non mais écoutez, il n'y a pas de ligne. Enfin, franchement, la dernière fois c'était drôle parce qu'il discutait avec des journalistes et les journalistes lui disaient « Ah, vous êtes quand même beaucoup plus libéral que Marine Le Pen ». Et il venait exactement d'exposer le projet économique qui était celui que j'avais conçu pour la dernière présidentielle. Donc j'entends qu'on ait envie de voir des différences. Il n'y a pas de différence. Et évidemment, nous parlons à des chefs d'entreprise. Évidemment qu'ils se rendent compte, d'ailleurs, pour la plupart, qu'ils ne connaissent pas non plus notre programme économique et que c'est bien qu'ils le connaissent parce qu'ils en avaient une vision caricaturale. Et je pense que l'on peut préserver les intérêts économiques de notre pays, renouer avec la croissance, sans obligatoirement considérer que les chefs d'entreprise, comme le fait la gauche, sont des adversaires ou des ennemis.
C'est vrai que vous avez eu cette petite phrase la dernière fois que vous avez pris la parole, vous étiez en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûre que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problèmes de la Nouvelle-Calédonie. Alors nous, évidemment, on a tous sursauté, hein, vous connaissez les journalistes. On s'est dit, vous pensez quoi? S'il ne connaît pas bien les problèmes de la Nouvelle-Calédonie, c'était quoi? C'était une correction?
Mais
une
non, réprimande c'était rien,
publique, mais c'était quoi?
Vous faites toujours un dada... Enfin, vous faites de rien, quoi, un buzz, parce que, je sais pas, il vous manque des choses à dire, pourtant des choses à dire, il y en a plein, quoi. Enfin, je veux dire, la situation du pays est telle que, dans l'intégralité des domaines, on a des choses à dire. Il se trouve que j'étais en Nouvelle-Calédonie, la situation de la Nouvelle-Calédonie, elle évolue tous les jours. Je venais de faire 4 jours de consultation de l'ensemble de la classe politique pour proposer un sujet. Donc, au moment où on se parlait, je crois que j'étais celle qui connaissait le mieux la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Marine Le Pen.
Parce qu'on me demandait, mais est-ce que vous allez aller avec lui dans le tour
Marine
de table d'Emmanuel Macron?
La présidentielle arrive. On rappelle que vous avez été condamné à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Le procès en appel se tiendra au premier semestre 2026. Décision attendue à l'été 2026. Vous restez à ce jour la seule candidate à la présidentielle de votre parti.
Bah oui, évidemment. Je suis la seule candidate à la présidentielle, car j'espère que la cour d'appel rectifiera cette erreur majeure qui a été commise par le tribunal qui a constaté ma culpabilité que je conteste formellement et a décidé précisément, hein, c'est dans le jugement, de m'empêcher d'être élu à l'élection présidentielle. Je pense que c'est un problème démocratique absolument majeur.
Vous avez confiance dans la justice ?
Je veux avoir confiance dans la justice. Mmh. Vous voyez,
Si jamais ça n'était pas le cas et que la cour d'appel décidait ce qu'elle décidait, Jordan Bardella a-t-il les qualités pour être président de la République à 31 ans ?
Mais oui, bah oui. Oui, parce que il pense bien, parce qu'il
pays.
A les bonnes idées, parce qu'il a la bonne vision. C'est celle que nous partageons d'ailleurs ensemble. Donc voilà, les choses sont très claires. Nous allons mener campagne présidentielle jusqu'à la décision de la cour d'appel. Et si jamais, par extraordinaire, la cour d'appel décide de m'empêcher d'être candidate, ce qui sera un scandale mondial, nous continuerons à faire campagne à la présidentielle
avec lui.
Avec lui, bien sûr.
Un mot sur Gaza. Lundi, Emmanuel Macron estimait que le blocus humanitaire y était un scandale et une honte. Vous diriez quoi à Benjamin Netanyahou si vous étiez au pouvoir aujourd'hui? Continuez votre guerre à Gaza, on vous soutient. Quelle serait votre position, Marine Le Pen?
Ce qui est sûr, c'est que moi, je partage en tout cas l'objectif de Benjamin Netanyahou d'écarter définitivement et d'annihiler la puissance de destruction du Hamas. Bon, mais je ne suis pas la seule, puisque je vois quand même qu'au moment où Emmanuel Macron tape à tour de bras sur Israël, Mahmoud Abbas lui-même, le président de l'autorité palestinienne, donne des leçons à Emmanuel Macron en disant des choses qui sont très claires et qu'on attendait dans la bouche d'Emmanuel Macron. Un, il faut libérer les otages. Deux, il faut que le Hamas sorte de Gaza et qu'il n'ait plus aucune influence politique demain. Et c'est exactement les conditions que j'ai posées, moi, pour commencer à réfléchir potentiellement à la reconnaissance d'un État palestinien que je défends. Je défends l'existence de deux États depuis de nombreuses années. Mais j'ai dit... pas avec le Hamas, on ne peut pas forcer Israël
donc
à avoir comme voisin
que la guerre, vous comprenez que la guerre
un État
est le bloc
terroriste.
Vous comprenez que la guerre continue aujourd'hui.
Moi, ce que je comprends, c'est que Mahmoud Abbas a une vision de cela qui est beaucoup plus ferme contre les terroristes du Hamas que la position d'Emmanuel Macron, et j'en suis bien malheureuse.
Et dernière question, très rapidement, comment vous trouvez les 4 premiers mois au pouvoir de Donald Trump? Il fait le job?
Bah, si vous voulez, on a vraiment le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'attends de voir quels sont les résultats. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il a été, il est toujours beaucoup critiqué. Hein. Il est de bon ton de critiquer Donald Trump. Il a une méthode qui est assez particulière, qui est peut-être américaine, mais qui est assez
brutale
à comprendre. Assez difficile à comprendre en France. Mais moi, je juge les dirigeants politiques à leurs résultats. Et lors de son premier mandat, il a été beaucoup critiqué, mais dans le domaine de économique, eh bien, il a obtenu pour les Américains des bons résultats. Donc, attendons de voir ce qu'il en est. Et puis, en revanche, arrêtons de trouver des justifications à ceux qui usent de la violence, qui pillent, qui cassent, parce que ça n'est pas un processus démocratique de faire ça.
Merci Marine Le Pen d'avoir été à notre micro sur Inter ce matin. 8h48.
Super idée ce restaurant.
Bah oui, ça nous change un peu.
Bonjour Madame Laura, comment allez-vous depuis la semaine dernière?
Votre table habituelle Madame Laura?
Bah Madame Laura, t'as gagné au loto ou quoi?
Oh,
loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros minimum à partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire?
DS Automobile présente
le Weekend DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ces technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Claude, vous nous parlez d'un céleri.
Un céleri que croquait Paul McCartney des Beatles chez Brian Wilson des Beach Boys. Et ce céleri croqué en 1967 s'entend cric-croc dans une chanson nommée Vegetables, légumes, qui fut une de ces œuvres que Wilson concevait à la recherche d'un son qui n'appartiendrait qu'à lui. Nous voilà donc, mes amis, avec un légume de génie, une époque qui nous prend, Brian Wilson étant mort à la une de Libération. On le voit, Wilson, garçon rond aux yeux qui nous disent une arme tourmentée, ambitieuse, pleine de larmes. Libération raconte Wilson dans une nécrologie éblouissante signée Christophe Comte. La nécro du site du Monde est également époustouflante qu'elle nous raconte, car elle nous raconte un pur génie que la musique habitait au point où il se confondait avec elle. Vous entendez un disque? Vous vous dites « Je voudrais être ce disque », avait dit Wilson en 1992 à notre ami Mishka Assayas, qui en avait fait un entretien fleuve, mythique pour les inrecuptibles, entretien que peut-être un jour les inrocs exhumeront sur leur site, ce serait bien. Mais en attendant donc, lisant Libération et Le Monde, je comprends que l'apparence des Beach Boys, ces musiques dansantes, sucrées, niaises, immensément populaires, nous ont masqué l'immensité de Wilson, guitariste, producteur, démiurge de groupe, qui ensuite se débarrassa de lui. Il n'avait que faire des sucreries, il ne pensait qu'au son. Sean O'Nolenon, fils de John qu'il admirait, dit que Wilson fut le Mozart de l'Amérique, et cela fait sens, car comme Mozart, Brian Wilson eut un père brutal, autoritaire, qui de son talent voulait faire fortune, mais comme Mozart, Brian, dont l'esprit bouillonnait, qui entendait des voix, qui souffrait en création, voulait autre chose. Après une crise de nerfs, il renonça à accompagner les Beach Boys en tournée, mais composa chez lui robe de chambre, beurre de cacahuète, piano posé sur le sable. C'était un temps de psychédélisme, de mystique, de guitare, de drogue, d'impossible vaincu et d'impossible que l'on pouvait vaincre. Brian Wilson était à l'écoute des Beatles. Sgt. Pepper's lui fut un traumatisme, ses Anglais étaient tellement forts, mais pas seulement les Anglais. En 1963, dans sa voiture, il avait entendu un groupe de chanteuses noires, les Ronettes. Le morceau s'appelait « Be My Baby ». Il s'arrêta de conduire, choqué, puis écouta le disque jusqu'à comprendre la moindre vibration. Les Ronettes étaient l'invention d'un autre génie nommé Phil Spector, qui finira meurtrier, mais qui avant cela avait inventé le mur de son. Des symphonies pour gamins, disait-il, la fabrication d'un son épais et dense par l'addition d'instruments qu'on ne pouvait plus différencier. Wilson imita Spector, il le dépassa. Il juxtaposa, comme des millefeuilles, les instruments, les voix de ses frères et cousins, des Beach Boys, et puis d'autres instrumentistes. Il joua des échos, des accords, des rencontres, tritura, des heures d'enregistrement, de montage. Il invitait du violoncelle, un térémime, qui est un instrument que l'instrumentisme ne touche pas. Il invita des aboiements de chiens, et donc le céleri de McCartney. En 1966, Good Vibrations fut un chef-d'œuvre mondial, chanson unique, artificielle, pure création. Elle devait être le jour joyau d'un album nommé Smile, Sourire, qui serait, voulait Wilson, une symphonie adolescente dédiée à Dieu. Et puis l'ambition, la folie, lampe, la perte. Il est devant nous, Brian Wilson. Écoutez-le, lisez-le.
Vous nous parlez aussi d'un syndicaliste.
Car quelque chose en lui m'a rappelé Brian. Oh, pas la folie, je pense, car il n'a pas l'air fou en dernière page de l'Humanité. Laurent Pierre, tueur à la barbe prophétique et qui s'amuse de son nom qui pourrait faire peur. Tueur avec un H, quand même, ça change tout. Mais c'est son ambition qui me rappelle Wilson, l'idée qu'on peut faire autre chose de sa vie. Lui, jeune homme, fils d'un ouvrier d'usine or, s'imaginait prof de philo. Il en avait les lectures et puis l'existence. Il a fini par rejoindre l'usine de son père, qui a plusieurs fois changé de nom. Et il est aujourd'hui Laurent Pierre Tueur, le métallo-intello représentant CGT de l'usine ArcelorMittal menacée à Dunkerque. Et en même temps, Lige, il est écolo. Il défend l'emploi, sachant ce que produit son usine, de la dioxine notamment. Il vit aussi loin d'elle que possible. Il conseille aux copains de ne pas pêcher des moules dans le coin. Mais il se bat pourtant et ses contradictions ne le mine pas. J'aimerais bien discuter avec lui. Oh, je ne tiendrai pas la distance, mais j'apprendrai des choses. J'aimerais bien discuter avec Laurent Pierre Tueur de la dispute âpre dont nous parle le Nouvel Obs, qui oppose des héritiers de Pierre Bourdieu et des continuateurs de Bruno Latour. Bourdieu ayant été le sociologue de la lutte des classes, je simplifie, et Latour, je simplifie encore, le philosophe de la nature. Latour semble maître de l'heure. On publie de lui une œuvre posthume. Libération parle et utilise le mot boussole. Oui, mais cette boussole sera à l'heure, disent les enfants de Bourdieu, une pensée et commode bourgeoise qui ne remet pas en cause le capitalisme et qui expose les classes populaires alors qu'elles ne sont pour rien dans la pollution actuelle. Un sociologue, Franck Poupeau, va publier à la rentrée de septembre une charge contre l'écologie latourienne qui serait dépolitisée et impuissante. Ce sera dans la revue d'histoire Les Annales. Ça s'appellera « Le bestiaire sauvage du vivant, anatomie d'un moment éditorial ». L'économiste Frédéric Lordon lui a déjà publié un texte hyper violent, « Pleurnicher le vivant », mais Latour, Lige, avait ri de ce titre de bon cœur. Il admettait qu'il pouvait pêcher par optimisme. Il pensait à gauche, mais il n'en avait pas la mystique, comprends-je. C'est important, la mystique. Après Latour et Bourdieu, nous pouvons, heureuse presse, ouvrir la croix à l'hebdo et nous repaître de Charles Péguy, chantre de la France et de Jeanne d'Arc et de la cathédrale de Chartres, mort dans la Grande Guerre, qui avait de très beaux mots contre la bourgeoisie et contre l'argent et pour les ouvriers dont l'honneur était celui des travaux bien faits. Péguy qui devint croyant sans se renier, car le surnaturel est lui-même charnel et l'arbre de la grâce est raciné profond et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond. Péguy qui serait le ferment d'une résistance, me dit le journal, aux mensonges de notre temps. La Croix Quotidien, elle, regrette que la générosité du milliardaire mécène Édouard-Pierre Sterrin soit abîmée, gênée par ses projets politiques très à droite. Le journal le raconte, brancardier volontaire à Lourdes, comprenant que la beauté du volontariat, c'est la gratuité. La Croix est un journal qui n'a pas voulu que Sterrin indirectement l'influence, mais qui ensuite, sans acrimonie, sait entendre, comprendre, essaye. Elle nous dit aussi, La Croix, comment les migrants subsahariens survivent en Tunisie où l'on ne veut pas d'eux. L'Estéclair, lui, me dit des tirailleurs africains mort pour nous en 1940, nous ne connaissons souvent pas leur nom.
Et on parle enfin, Claude, de Couteau.
Qui, depuis la mort du jeune surveillant de collège, fascine, terrifie le monde des adultes, couteau d'enfant, d'adolescent. Alors il est bon, terrifiant, mais bon, de lire ceci et de le relayer, un article du Dauphiné Libéré qui nous dit qu'hier, c'est un adulte qui a brandi un couteau en menaçant des mômes devant un collège dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, car les enfants, voyez-vous, les enfants aussi, parfois, ont le dos large.
Merci Claude pour cette revue de presse. 8h56, on est à Sting plus 1 avec vous, Mathilde Serrel.
J'ai du mal à m'en remettre.
Un monde nouveau. Ce matin, vous nous parlez du gourou de la tech, le philosophe français René Girard.
Le festival international VivaTech a ouvert ses portes hier à Paris et on pourrait accrocher à l'entrée le portrait d'un des plus grands inspirateurs de la Silicon Valley, René Girard, mort il y a 10 ans, en 2015, et père du concept de désir mimétique. Originaire d'Avignon, cet historien de formation a fait une longue carrière aux États-Unis, notamment comme professeur de philosophie à l'université de Stanford. L'un de ses étudiants fascinés de l'époque s'appelle Peter Thiel, souvent présenté comme l'idéologue des grandes firmes de la tech américaine, investisseur clé, notamment de Facebook et d'Instagram, parrain du like et cofondateur de PayPal qui a fait sa fortune. Reprenons d'abord cette histoire de désir mimétique. C'est une théorie qui vient de la grande analyse des textes romanesques par René Girard. Il en tire cette loi des interactions humaines. Nous ne désirons pas spontanément quelque chose ou quelqu'un pour sa valeur, sa rareté ou en fonction de nos inclinaisons personnelles, mais bien souvent parce que les autres le désirent. Et ce n'est pas sans conséquences. Je laisse René Girard l'expliquer lui-même.
Ce que j'appelle le désir mimétique, c'est-à-dire l'imitation
d'un désir par un autre sujet, n'est-ce pas, qui emprunte ce désir. Et cette forme d'imitation du désir est créatrice de rivalité.
De son vivant, en 1999, René Girard disait déjà dans une interview au journal Libération que la mondialisation, c'était le triomphe du désir mimétique. On se met tous à vouloir la même chose parce que les autres l'ont. Apple et son dernier iPhone ont été déjà la parfaite illustration, mais les réseaux sociaux sont devenus par excellence un espace d'imitation du désir de l'autre. C'est en voulant comprendre le code source du conflit que René Girard a développé cette théorie, puis celle du bouc émissaire, victime expiatoire de ses escalades de désirs conflictuels.
Et que font Peter Thiel et les manias de la Silicon Valley de cette théorie ?
Mais quand on voit l'architecture des réseaux, on peut se dire que cette analyse de la mécanique des rapports humains a servi à bâtir des structures où cette tendance naturelle au désir mimétique et au bouc émissaire est exacerbée. Ce serait donc un usage stratégique. D'ailleurs, comme le rappelle le média Numérama, Peter Thiel a financé des recherches sur la pensée de Girard et sur le désir mimétique. Il a aussi beaucoup cité dans ses conférences, notamment à la faculté de droit de Yale, j'ai un petit chat dans la gorge, allumant la passion Girard chez un certain J.D. Vance, qui est aujourd'hui vice-président des États-Unis. Ce qui est assez fou, c'est donc que des techno-boss ont la main sur une forme d'organisation sociale des désirs et donc des conflits. Et en tant qu'innovateur, il se place également au-dessus de ses concurrences de désirs puisqu'il les crée. Il faudra donc repartir à la source très pertinente des théories de Girard pour en tirer un nouveau code.
Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête. Philippe Catherine, à vous.
Savez-vous qu'on compte dans la population mondiale environ 6% de blondes et de blonds aux yeux bleus ? Oui, 6%, c'est peu. Et ça fait réfléchir, 6%, soit seulement 10 millions de blondes et de blonds sur 8 milliards de gens qui foulent actuellement la grosse boule. Par contre, un quart du PIB mondial est détenu par des blondes et des blonds. Oui, des blonds. Moi, qui vous parle, mon naturel est plutôt blond. Théma, ces belles boucles d'or. Et au milieu de mon visage rubicon, se logent deux petites billes bleutées, tout ce qu'il y a d'adorable. Oui, comme Donald Trump, je suis blond, 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 blond. Je n'ai jamais été contrôlé parce que je suis blond. Je n'ai jamais